Ça marche. Voilà, vous allez m'entendre devant vous, derrière vous, au-dessus de vous. C'est grâce à la sonorisation. Alors, cette semaine, dans ma lecture, j'étais parti sur quelque chose qui avait plutôt rapport à « Suivez-moi ». Et puis finalement, le Seigneur m'a amené dans le livre de Agée, un prophète. Le prophète Agée. C'est deux chapitres. Mais pourtant, franchement, en creusant un tout petit peu ce livre, le message que je vais vous donner aujourd'hui, ça serait quasiment trois messages. Donc, normalement, à l'Institut biblique, j'ai appris l'ordre avec des mnémotechniques. Mais après, on oublie les mnémotechniques. C'est ça qui est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Migé, Axamal. C'était Axamal. Vous imaginez comme moyen mnémotechnique pour vous. Axamal, Agé, Zacharie, Malachi, Axamal, ça fait médicament. Mais voilà, c'est un peu un médicament dont on va parler ce matin. Allez, prophète d'Agé, le titre de ce message, c'est « Il est temps de rebâtir ». C'est ce qu'on va voir maintenant. Le contexte de ce livre, il est très simple. Je vais essayer d'être court chaque fois que je vais parler, parce que sinon ça va durer deux heures. Le contexte, c'est le temple qui est détruit. On pourrait parler de pourquoi il a été détruit, quand ça s'est passé, faire tout le tracé historique. On va s'en tenir à ce que dit le chapitre 1, verset 4 et verset 9, à deux reprises. Cette maison est détruite, c'est le verset 4. Et le verset 9, il le répète, à cause de ma maison qui est détruite. Voilà le contexte de ce livre. Et Dieu parle là non pas pour qu'on se lamente sur la destruction, la désolation, comme à Jérusalem, le mur des lamentations, il parle, on le voit au verset 1, il prend la parole. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Je m'arrête là parce qu'on va voir les mots. Donc Dieu parle, il a quelque chose à dire. Et la première chose qu'il dit, c'est que mon temple est détruit. Les gens devaient le savoir, mais ils avaient besoin de le réentendre. Dans ces deux chapitres, j'ai remarqué une chose, c'est la question du temps est fondamentale. Il y a plusieurs références au temps. Le temps dans l'idée du timing, que les choses doivent se passer à un certain moment, et l'idée de la durée, elle est importante. Pourquoi je dis ça? On va lire juste quelques versets rapidement. Chapitre 1, verset 1, on vient de le dire. Dieu dit à quel moment ça se passe. Nous, on ne s'intéresse pas trop aux dates. Personnellement, je suis nul en dates, je ne retiens rien. Mais là, j'ai vu que Dieu, à quatre reprises, donne des dates très précises. Donc là, on le voit, c'est seconde année de Darius, c'est le premier jour du sixième mois. Alors, pour se simplifier, je sais bien que dans le calendrier hébraïque, ce n'est pas dans l'ordre comme quand on dit, nous, le sixième mois, c'est quoi? Juin. En Israël, les histoires de mois, ce n'est pas positionné de la même manière. Le premier mois, c'est après. Il y a l'année civile, un calendrier civil, et il y a l'année religieuse. Et l'année religieuse, elle commence plutôt à Pâques. Mais donc nous, pour comprendre dans notre tête, on va penser à l'occidental. Sixième mois, on va dire que c'est le mois de juin. D'accord ? C'est important de se rappeler ça. Verset 15 de ce même chapitre. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois. Donc Dieu a parlé le premier jour du mois de juin et ils se sont mis au travail le 24 du mois de juin. J'en dis pas plus pour l'instant. Chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée. Donc Dieu recommence à parler au septième mois de juillet. Le 21e jour. Donc, vous voyez, il y a un timing. Et Dieu le répète les dates. Et chapitre 2, verset 10. Le 24e jour du 9e mois. Donc, 24e jour du 9e, on est au mois de septembre. Et c'est le 24e. Donc, moi, le message, je voulais appeler ça 4 mois pour rebâtir. Alors, en fait, on est quasiment à 4 mois. Juin à septembre, mais début juin à fin septembre. Donc, en gros, la durée, c'est quasiment 4 mois, même si c'est sur 3 mois, de juin, juillet, août, septembre. Bon, allez, 4 mois. On se simplifie la vie. On dit, c'est ça la durée, 4 mois. Et on voit bien, avec ces dates-là, qu'il y a trois grandes phases. Dieu va parler pour les encourager à rebâtir le temple détruit. Et il y a trois grandes phases qu'on retrouve. Et ces trois grandes phases, elles sont de juin à septembre. Pourquoi il a fallu que ça soit si long? Pourquoi s'est-il mis à parler à ce moment-là? Je pense qu'il y a principalement deux raisons. Il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre. Ce n'est pas la peine de parler. Vous voyez ça avec des enfants, vous voyez ça dans une équipe de sport. Il y a des moments où les gens ne sont pas prêts à entendre, ils n'entendront pas. Donc ce n'est pas la peine de parler avant. C'est la première idée du temps. Et puis, on l'a lu tout à l'heure, Dieu a parlé le 1er juin, ils se sont mis au travail, vous vous rappelez, le 24. C'est lent à la détente quand même. Oui, oui, je le ferai. 24 jours plus tard, vous y mettez, c'est bien, il vaut mieux ça que de ne pas le faire. Mais reconnaissons aussi que le temps dans la pensée de Dieu, c'est important et que justement, il tient compte de ce que nous sommes. Lent à comprendre et lent à obéir. Lent à mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Ça, c'était une première question. La question du temps est importante dans ce prophète-là. Et à chaque phase, on va voir, en gros, c'est trois phases, même si c'est découpé en deux fois, c'est trois étapes. Dieu parle, et j'ai remarqué, et c'est étonnant, on dirait que c'est fait pour un prédicateur, que dans chacune des trois phases, Dieu va donner un diagnostic de la situation. Et dans le diagnostic, comme un médecin, il va d'abord s'attacher aux symptômes qui vont permettre de déterminer le mal. Donc il va dire quels sont les symptômes dans son diagnostic, mais aussi quel est le problème. Ensuite, il va parler d'une prescription. Il va dire, bon, voilà, le constat c'est ça. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. C'est l'ordonnance du médecin, c'est la prescription, c'est l'ordre de marche, c'est la feuille de route, vous appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque étape, il va faire une promesse. Donc il y a le diagnostic, il y a la prescription et il y a aussi une promesse que Dieu fait. Il ne nous laisse pas tout seul avec ce qu'il y a à faire. J'ai trouvé intéressant aussi que dans chacune des phases, il dit des choses différentes. À chaque fois, il y a un problème qu'il va falloir corriger, bien sûr, mais il y a des phases qui nous poussent à l'introspection à plusieurs reprises. Au début, il le dit deux fois, verset 5, « Considérez attentivement vos voies. » Considérez vos voies, ce que vous faites, vous. Ça, c'est un peu de l'introspection. Au verset 7 du même chapitre, il dit ainsi par l'Éternel, « Considérez attentivement vos voies. » Donc cette phase introspective, elle est importante. Elle est nécessaire. Mais après ça, chapitre 2, verset 15, il va dire « Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. » Donc au début, c'est plutôt introspectif. Et à la fin, il va plutôt parler de « Regardez ce qui se passe, en fait. Regardez. » Donc moi, j'ai appelé ça plutôt, après l'introspection, il va y avoir aussi un appel à l'action. On va le voir, ça c'est clair. Mais il y a aussi l'idée de l'évaluation objective de qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir tout ça. À chaque fois, il y a une part d'introspection. Alors, c'est bien parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup l'introspection, se sonder soi-même et passer son temps à réfléchir. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je fais bien? Et toujours en attente d'une approbation ou d'une remarque. Voilà. Et d'autres, ça ne les intéresse pas du tout, ça. Et c'est toujours l'action. Dis-moi ce que j'ai à faire, je le fais. Je ne veux pas savoir comment je me sens, comment je ne me sens pas. Et d'autres sont prêts à l'introspection, sont prêts à l'action, mais finalement, ne se soucient pas trop des résultats, pas trop de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont toujours dans cette espèce de foi aveugle, réellement de déni de réalité. Et le Seigneur va nous faire passer, à la fois alternativement et de manière combinée, par des moments d'introspection, des moments de mise en œuvre d'une action et des moments de « regardons ce qui se passe, finalement, tenons compte de ce qui se passe ». Voilà. Donc, chaque fois, chaque message, chaque fois que Dieu va parler, il va montrer quelque chose à corriger. Et c'est intéressant, cette idée, ce n'est pas pour nous déprimer, ce n'est pas pour nous décourager, ce n'est pas pour nous culpabiliser, il va montrer quelque chose à corriger. Alors là, je viens un peu à l'actualité. Des petites illustrations très courtes. La France a gagné hier au rugby. Ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis, je suis quand même un peu content. Voilà, c'est tout. Et jusqu'à la dernière, quasiment dernière minute, il perdait. Et puis quelqu'un a mis un shoot extraordinaire, 45 mètres, enfin, et on a gagné. Alors qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça ? Quand on a commencé le tournoi Destination, ça s'appelle, oh, les Français, c'était les meilleurs, ils allaient gagner le monde entier, on a fait des matchs extraordinaires. Je dis, bon, excusez-moi, c'est pas moi. Ils ont fait des matchs extraordinaires, ils gagnaient haut la main, voilà. Et puis ils vont en Écosse, s'attendant à continuer sur cette... Et puis en Écosse, bing, on s'est pris 50 points, ce qui est quand même une performance, une contre-performance. Et là, ce match-là, le dernier, on avait encore la chance de gagner ou de ne pas gagner, donc on était un peu plus sérieux, mais il y a eu un moment vraiment où on perdait. Et puis, miracle, les Français ont gagné. Bon, OK, tout ça pour dire quoi ? C'est que maintenant, on va objectivement évaluer tout ce qui a été fait. On ne va pas dire on est les meilleurs du monde, tout ce qu'on fait, c'est parfait. On ne va pas dire on est nul, on a tout perdu, on ne vaut rien. On va, OK, on a gagné, c'est très bien, mais il y a des choses à corriger. Et c'est ça que je voudrais qu'on garde à l'esprit. Il y aura des moments dans ce message où il y aura des choses qui pourraient, quelque part, un peu nous reprendre, nous aller à rebrousse-poil. Voilà, dans un diagnostic, il vaut mieux. On ne va pas vous dire, un docteur, si vous dites, non, tout va bien, rentrez chez vous. Ben oui, mais quand même, docteur, il y a quand même des choses à voir. Mais c'est dans l'idée de corriger. C'est dans l'idée d'avancer et de faire mieux, dans l'idée d'enlever ce qui va bloquer ou gêner. Vous voyez, et pour moi, c'est très positif. On n'aime pas être repris. On en parlera à la fin du message, mais dans l'Épître aux Hébreux, quand il est question de châtiment, on dit c'est un sujet de tristesse. On n'aime pas qu'on nous dise il y a quelque chose qui ne va pas. On préfère nous dire mais non, tu es merveilleux, tout va bien, tout ce que tu fais, c'est extra. Enfin, non, il y a des moments où il faut accepter ça, accepter d'être repris pour être corrigé, mais dans le bon sens du terme. C'est comme un père que Dieu nous corrige. C'est pour faire mieux, c'est pour avancer, c'est pour être plus utile, c'est peut-être pour porter plus de fruits et lui être plus agréable et le glorifier. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, ben on va voir trois choses, en fait. D'abord, on va voir qu'il y a un problème de priorité. Après, on va voir qu'il y a un problème de perspective. Et puis, on verra pour finir, globalement, c'est qu'il y a un problème de sanctification. Voilà. Alors, si vous aimez les messages comme ça, où il y a des problèmes, vous en aurez. Si vous vouliez juste un message pour encourager, tout va bien, tout est merveilleux, tout ira bien, il y a aussi ça, mais les deux ensemble. Problème de priorité. On commence par je vous ai dit, diagnostic. Rappelez-vous, diagnostic, prescription et promesse. OK, le diagnostic. Au tout début, on va parler des symptômes. Verset 6, donc chapitre 1, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Symptôme. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Deuxième symptôme, c'est un peu dans la même idée. Et c'est jusqu'au verset 11. Voilà. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. C'est un symptôme, ça. Dieu envoie ça, la stérilité, l'incapacité à porter du fruit ou à réussir ce qu'on entreprend. Il n'y a pas de résultat. En gros, c'est ça. Ce que vous espériez n'arrive pas. Frustration, déception, alors là, vous appelez ça comme vous voulez derrière. Mais ça n'est pas anodin. C'est un symptôme que Dieu nous envoie pour nous montrer quel est le mal. Et quel est le mal ? Est-ce que c'est que Dieu refuse de bénir ? Est-ce que c'est ça le mal ? Non. Ça, c'est un avertissement. Comme la douleur dans le corps est un avertissement d'un dysfonctionnement, d'une maladie qu'il faut soigner. Et grâce à Dieu, nous avons une douleur. Les gens qui n'ont pas de douleur, vous le savez, la lèpre, ils peuvent se brûler la main sans s'en rendre compte. et la main est effectivement brûlée. Donc la prescription, c'est quoi ? Maintenant, pardon, il y a d'abord le nom du mal. Ça vous intéresse ? Quel est le problème ? Je vous l'ai dit dans le titre. C'est la priorité. Quelles sont nos priorités ? Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voilà. Ce n'est pas le moment. Alors on pourrait dire, c'est de la procrastination. On pourrait dire, c'est de la paresse. Ou peut-être, ils ont raison, ce n'est pas le bon moment. Bon. Sauf que, verset 4, là, Dieu va un peu plus loin et il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Dieu n'a rien contre les maisons, Dieu n'a rien contre l'aménagement intérieur confortable d'une maison, mais il dit, est-ce le temps de vous occuper de ça alors que ma maison est détruite ? On a compris, problème de priorité. La prescription, verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Voilà, là c'est la prescription. Ce n'est pas de dire « Lamentez-vous, jeûnez, roulez-vous par terre, pleurez. » Non, c'est « Venez à la maison, apportez du bois, mettez-vous au travail. » Voilà, en gros, apportez ce que vous pouvez apporter. Vous apportez tellement pour lambrisser votre propre maison alors que vous n'apportez pas à ma maison qui est détruite. Le Nouveau Testament, Matthieu 6, 33. Cherchez. Non, ce n'est pas celui-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Question de priorité. Il n'a pas dit « Cherchez le royaume et vous allez mourir de faim, vous ne serez pas logé. » Non, et vous aurez, Dieu vous donnera toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est prioritaire dans notre agenda actuellement ? Est-ce que c'est de faire quelque chose pour reconstruire, rebâtir la maison de l'Éternel qui est détruite ? Ou est-ce que c'est, bon, on va d'abord faire nos petites affaires et puis quand il nous restera un peu de temps, on va s'occuper du royaume de Dieu et de sa maison ? Voilà. Après la prescription, merci Seigneur, verset 8. J'aime beaucoup la suite du verset. Je me suis arrêté là quand il dit « Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison et j'en aurai, c'est Dieu qui le dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Beaucoup disent « Mais servez le Seigneur avec vos dons, vous vous épanouirez. » Mais arrêtons avec ça. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour... Excusez, là, ça va choquer, mais on n'est pas là pour s'épanouir. C'est le monde qui cherche à s'épanouir. Nous, on est là pour servir le Seigneur. On a été sauvés. Pourquoi ? Pour les œuvres préparées d'avance afin qu'on les pratique. On est là pour ça. Se faire plaisir, se faire du bien, on a déjà fait ça toute notre vie avant. Chercher à s'épanouir, à se connaître, à se comprendre, à se faire du bien, on a fait ça depuis combien d'années ? Et le Seigneur dit, j'en aurai de la joie. Qu'est-ce qui nous anime ? Faire plaisir au Seigneur, vouloir lui être agréable ou vouloir que les choses que nous faisons nous soient agréables. Sa joie et sa gloire, et je serai glorifié. Notre maison, on peut être très fier de la montrer. Regardez tout ce que j'ai fait toutes ces années, ça fait des années que je travaille là-dessus, regardez, on est fier de la montrer. Quelque part, on se dit, ouais, le gars, il a bossé dur, il est doué, hein, il a un sens de l'esthétique, un sens de super. Mais quand on travaille à la maison de l'Éternel, normalement, c'est l'Éternel qui est glorifié. Voilà pour le premier problème que nous pouvons chercher à corriger. Ce qui est intéressant, c'est que ça, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu que ça commence le 1er juin et qu'ils obéissent le 24. Je veux dire, moi, avec un message comme ça, je me dis, j'irai en courant. Enfin, j'arrêterai ma maison tout de suite. Enfin, bon. Et c'est qu'on est comme on est, et Dieu nous connaît. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec du verset 12 au 14 jusqu'à ce qu'ils se mettent au travail. Première étape, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent. la voix de l'Éternel. Première chose, déjà, ils entendent. C'est déjà pas mal. Quand on dit entendre, ce n'est pas un son qui rentre dans l'oreille, c'est que c'est quand même rentré. Ils entendirent. Et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que Dieu lui avait donnée, l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple, deuxième étape, fut saisi de crainte. C'est ce message qu'on a entendu, qu'on « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ». Saisi de crainte, c'est la phase suivante. Là, ça nous empoigne. On ne peut pas repartir à la maison comme si on n'avait rien entendu. D'accord ? Saisi de crainte devant l'Éternel. Le Seigneur veut qu'on marche, non pas par crainte, mais il y a des moments où quand même, quand il nous parle, on ferait bien d'avoir un peu de crainte respectueuse, d'écouter quand il nous fait un reproche, de ne pas dire « oui, oui ». Si je parle encore sport, mais excuse-moi, mais des fois, un joueur n'en fait qu'à sa tête, le coach veut le reprendre et le joueur peut l'envoyer. Oui, parle toujours. Je ne vais pas donner de nom de footballeur ni quoi que ce soit. Il y en a, on n'a plus rien à leur dire. Le Seigneur a à nous dire. On peut dire oh, le prédicateur, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Mais Dieu, quand il a quelque chose à nous dire, il a raison. On devrait être saisi de crainte. Et ensuite, ça ne suffit pas parce qu'être tout tremblant, saisi de crainte, c'est bien. Mais ensuite, l'Éternel réveilla, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur, l'esprit de Josué, le sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ça s'appelle être réveillé. Des fois, le réveil, on voit des choses compliquées. Vous savez ce que c'est, des fois, le réveil ? Nous, on a une fille qui a du mal à se lever le matin. Mon épouse doit l'appeler avant pour qu'elle arrive à se lever. Et c'est quoi le moment où elle est réveillée, vraiment ? D'abord, c'est qu'elle décroche, ça c'est une première étape, mais on n'est pas sûr qu'elle... Le moment où on est sûr qu'elle est réveillée, c'est le moment où elle se lève. Sinon, elle va se rendormir. Est-ce qu'ayant entendu ça, on peut entendre, être saisi, et puis on raccroche et on se rendort. Quand on est fatigué, c'est comme ça. Mais là, l'Éternel réveille l'esprit de ces gens. Il a fallu tout ça, qu'ils entendent, qu'ils soient saisis de crainte, et que Dieu, par son esprit, les réveille pour qu'enfin, 23 jours plus tard, ils obéissent. 23 jours pour obéir à Dieu qui nous parle. Et il faut que Dieu insiste. Hein. On a entendu, on est saisi. Il nous réveille, il réveille l'esprit. Vous voyez, c'est passé par l'oreille, on a entendu. Saisi de crainte, le corps est commencé à être secoué un peu. Et l'esprit, enfin, quand l'esprit est saisi, là, on se met au travail et on obéit. C'est ça le réveil, c'est quand on obéit, c'est tout, hein. Ne cherchons pas des choses. Quand on fait ce que Dieu nous demande, c'est ça le réveil. Quand les chrétiens obéissent, c'est le réveil. Et c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de dormir, de sommeiller. Continuons. Et puis Dieu fait sa promesse avec tout ça, ça sera sa joie. Mais quand même, il fait une petite promesse toute courte au verset 13. Vous l'avez vu passer dans la lecture, verset 13. Je suis avec vous. Voilà, ce n'est pas un coach qui nous crie dessus, un peu comme je viens de le faire. C'est celui qui dit, mais j'ai des choses à corriger chez vous, mais je suis avec vous. Je serai là. Je ne te dis pas juste, vas-y, fais-le. Je suis avec toi. Si tu t'y mets, je suis avec toi. Je suis avec toi dans le sens de ton côté. Mais aussi, quand ça sera difficile, je suis avec toi pour t'aider. Si tu t'y mets, je suis avec toi. Ça, c'est une belle promesse, non ? Que le Créateur de la terre, on parlait de souverain, de majestueux, de glorieux, et il dit, je suis avec toi. De quoi tu as peur ? Oh, mais c'est beaucoup de travail. D'accord, mais je suis avec toi. On va aller encore plus loin. Alors, problème de priorité, c'était le premier. C'est pas mal, déjà. Deuxième problème. Là, on passe au chapitre 2. Diagnostic. Alors, on va dire que le diagnostic, c'est verset 3, c'est moins clair, mais on va comprendre. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Quel est le problème là ? C'est-à-dire se comparer à ce qu'il y avait avant. Regarder en arrière, passer son temps à regarder ce qu'on avait avant, de comment c'était avant, et on fait rien avec ça. C'est décourageant, parce que après, voilà, ce que vous voyez maintenant, c'est comme rien à vos yeux. Vous dites, mais quelle misère, je veux dire, moi qui ai connu ça, et que c'était comme ça, et il y avait tout ça, et là, c'est, avec mes yeux, je le vois comme rien. C'est ce que Dieu leur fait comprendre. Vos yeux voient mal. Vous avez un problème de vue, mais pas dans le sens où vous ne voyez pas les choses, vous les voyez avec une mauvaise perspective. Vous regardez en arrière ce qu'il y avait avant, la gloire du temple d'autrefois, qui n'est plus. Aujourd'hui, ce que je vous demande de regarder, c'est la maison est détruite. C'est tout. Et de regarder où ? Qu'est-ce que nous demande le Seigneur, là, dans ce cas-là ? En avant. On a compris, la maison est détruite, il l'a dit, il est le premier à le dire. On est d'accord. Mais regarder en arrière n'est qu'une source de découragement. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça, que c'est une source de découragement ? Parce que, regardez, quand Dieu va prescrire, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Quand Dieu va prescrire, bon, il y a aussi au verset 9, parce qu'il reprend l'idée, regardez quand même, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Donc, il y a encore ça, la comparaison. Tu dis que c'est rien ce qu'il y a maintenant, que c'est par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais dis-toi bien que quand tu feras ce qu'il y a à faire et que moi, je ferai ce que j'ai promis, la gloire de cette maison à venir sera plus grande que celle dont tu te repais actuellement et qui te décourage et qui t'empêche de te mettre au travail. Et qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une source de découragement ? Parce que, regardez, au verset 4, quand Dieu prescrit, il dit trois fois la même chose. Selon les versions, il dit à trois reprises, fortifie-toi. Il dit à Josué, fortifie-toi. Il dit à Zorobabel, fortifie-toi. Et il dit à tout le peuple, peuple entier du pays, verset 4, fortifie-toi, dit l'Éternel. Je garde encore et travailler. Mais déjà, première chose, fortifie-toi. Et dans la version Osterwald, j'aimais bien, parce que ça, au lieu de dire fortifie-toi, ça disait courage. À la fois courage, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Allez, bon courage, hein. On va partir faire une promenade, on va se mettre à table, on te dit bon courage quand même à chaque fois. Bon, bon courage. Ça ne veut plus rien dire. Mais quand Dieu dit courage, il sait que c'est le mot dont on a besoin. Je fais un tout petit peu de gainage Pilate, et il y a des exercices où, au bout de quelques répétitions, j'ai dit, je vais reposer la jambe, là. Ça suffit, j'en peux plus. Et il est là à nous dire, allez, 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 encore, encore un peu, encore, on continue, et courage, allez, on continue. Et s'il n'avait pas dit, je vous assure, j'allais poser ma jambe. Je me dis, je suis, moi, tel que je le sens, arrivé au bout. Et lui, il insiste en disant, allez, on peut. Et puis, autour de moi, il y a déjà des personnes beaucoup plus âgées que moi. Donc, et il dit courage, il dit allez en avant, et on tient. Et on se rend compte qu'on tient et qu'on va au-delà de ce qu'on pensait. Quand Dieu dit courage, il sait qu'on a besoin de ça. Et qu'on n'a pas besoin de plus, en fait. Juste un encouragement à continuer. Et ça montre bien qu'on était, si on a besoin de courage, qu'est-ce qu'on avait ? Ben, le découragement. On était sur le point d'arrêter. On n'avait pas envie de continuer. Et justement, là, il le dit, et quoi ? Courage pour quoi ? Pour vous réjouir ? Et c'est écrit, non ? Je crois. Et travailler, c'est tout simple. Hein. Il y a des fois, on se complique la vie, mais et travailler, c'est tout. Travaille. Tu veux rebâtir ma maison ? Travaille. Il y a des choses concrètes à faire. Et travailler. Ah oui, mais je suis au bord de la rupture, là, je suis fatigué. Et travaille. Travaille. Oui, mais il y a des jeunes qui devraient... Fais ce que tu as à faire, toi. Travaille. Il y a quelque chose à faire. Si Dieu nous répète « travail », ça veut dire qu'on était plutôt en train de dire « bon, repos ». Et verset 5, il le dit « ne craignez pas ». Bon, je reste, ça c'est dans la promesse, je reste. Mais quand il dit « ne craignez pas », ça veut dire quoi ? Qu'on a peur, non ? Dieu ne perd pas son temps à dire des choses « ne crains pas ». Je veux dire, vous, là encore, excusez-moi, je parle de nourriture encore, mais au moment de vous mettre à table et de manger une quiche au poireau, on te dit, bah, ne crains pas. Hein. Mais non, c'est qu'on a peur de quelque chose. Mais là, la peur, c'est quoi? La peur de commencer, de ne pas arriver à terminer. La peur de ne pas avoir la force. La peur de ne pas avoir les moyens. Vous voyez? Et Dieu dit, ne crains pas. Travaille, ne t'occupe pas de ça. Travaille. Vous savez, Eric, il n'a pas parlé des besoins de son église, mais ils ont commencé à travailler l'acquisition d'un terrain, poser les fondations, parce que là où ils sont en plein centre-ville, c'est très joli, mais c'est devenu un peu petit. Ben, normalement, il faut arriver à vendre le bâtiment pour arriver à terminer les travaux. Et là, pour l'instant, les fondations sont posées et ils sont un peu bloqués. C'est difficile hein, de commencer des choses où il va falloir que Dieu pourvoie. Il va falloir des ressources humaines, des ressources financières. Et on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas avoir les moyens, on a peur de ne pas avoir la force, de ne pas avoir le temps, on a peur. Et là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ne craignez pas. Et il passe à la promesse, maintenant, verset 5, il ne nous laisse pas tout seul avec ça. Il ne dit pas travailler, travailler, travailler. Il dit, verset 5 à verset 9, on va juste le lire, je n'ai même pas besoin de commenter. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Déjà, il est engagé. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ah, déjà, l'esprit de Dieu est au milieu. Oui, mais c'est tout petit, l'esprit est au milieu. Et on continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. La question du temps, tout ne se fait pas comme ça. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Gardez ça à l'esprit. On y reviendra. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La question de l'argent. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il est prêt à vider les nations pour qu'il y ait de l'argent pour bâtir le temple à Jérusalem. À ébranler les nations. On dit, mais d'où ça va venir? D'où ça peut venir? Personne n'a les moyens. Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, s'il faut ébranler les nations, je le ferai. Nous, il y a eu plusieurs fois, il y a des situations, ça a engagé un argent qu'on n'avait pas, c'est arrivé parfois, enfin un déménagement, et Dieu avait promis qu'il ferait venir l'argent des nations. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, enfin, l'argent des nations, moi je suis en France, je suis à Montauban, je vis à Marseille, l'argent des nations. Et incroyablement, il y a eu des soutiens qui sont venus des Philippines. Pourquoi les Philippines, alors que les églises là-bas, c'est des pays quand même en voie de développement, mais pas des pays riches. Les églises ne sont pas riches. Enfin, ben c'est les Philippines. Et il y a eu de l'argent des Philippines, il y a eu de l'argent... Enfin, le Seigneur a fait ce qu'il avait promis. Et on a eu assez. Ce n'est pas les Philippines, notre pourvoyeur. C'est Dieu qui a dit, l'or et l'argent sont à moi. Et si j'ai envie de le faire venir d'un pays étranger, tu ne peux pas le refuser. Si j'ai envie de le faire venir de ton voisin, si j'ai envie de le faire venir des impôts qui te remboursent de l'argent, si j'ai envie de le faire venir de... Enfin, je ne peux pas tout vous dire. Mais on a une somme là qui nous a été promise pour quelque chose. Je vous en parlerai plus tard. C'est improbable comment Dieu peut faire. Parce qu'il peut faire venir de l'argent ou il peut faire qu'on n'a pas à payer de l'argent. C'est pareil. C'est un budget, ça s'appelle. Que ce soit de l'argent qui rentre ou de l'argent qui ne sort pas, c'est pareil, ça paye ce qu'il y a à payer. Et Dieu se glorifie en montrant qu'il a toutes les manières qu'il décide de nous surprendre toujours de comment il pourvoit. À moi, l'or et l'argent. Et après ça, ben, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. C'est Dieu qui fait une promesse. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Argent, or, gloire, lui-même à l'œuvre. Et il dit, c'est dans ce lieu qu'il y aura la paix, que je mettrai la paix. Jérusalem, ville de paix, c'est une ville qui, depuis, n'arrête pas de provoquer des conflits. Le plan de Dieu, c'est Jérusalem, ville de la paix. Et c'est dans ce lieu qu'il mettra la paix. Là, on revient au vrai contexte. Peut-être qu'on se projette beaucoup ici. Mais dans le contexte, c'est ça. Et si Dieu promet, malgré tout ce qui nous semble évident, aller à l'encontre de ce que Dieu a promis, ce que Dieu a promis, il accomplira. S'il dit, c'est dans ce lieu que je mettrai la paix, c'est dans ce lieu qu'il mettra la paix. Le prince de paix va régner là. L'objet de toutes les nations qui vont s'acharner contre ne change rien au fait que c'est là que Dieu le fera. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Vous voyez, pour revenir à l'idée du diagnostic, regardez en arrière. Il y a une chose qu'on doit comprendre dans notre vie chrétienne. C'est quoi ? Que dit l'apôtre Paul ? Frère, là il parle de la perfection, bien sûr, mais je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, verset suivant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est vrai que dans le contexte, ça ne parle pas des projets, mais quand même, faire une seule chose, l'apôtre Paul a bien compris. Il a fait plein de choses très différentes, mais il a fait une chose, il voulait annoncer l'évangile. Et pour ça, il ne faut pas passer son temps à se dire « Ouais, mais est-ce que j'ai bien prêché quand j'étais à Athènes ? Il y a eu des gens qui ne sont pas convertis, il y en a des gens qui n'étaient pas contents. Est-ce que je n'ai pas exagéré ? Est-ce qu'on peut passer son temps à toujours se dire « Oui, mais je n'ai pas fait comme si, on aurait dû faire ça et il s'est passé ci. » Arrêtons ça. Allez vers l'avant, nous portant vers ce que le Seigneur nous montre. Troisième et dernier point, je vous avais prévenu que c'était trois messages, donc c'est un peu long. Mais bon, ça va. Hein. On peut tenir, hein. Je pense que... Question de priorité, non ? Il est 11h15. Au Cameroun, on terminait à 3h de l'après-midi. Hein. Donc, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, vous inquiétez pas. Problème de priorité, problème de perspective... vers quoi on regarde. Et personnellement, si j'étais le médecin spirituel qui devait parler au peuple d'Israël, j'aurais mis ça en premier. Mais Dieu le met à la fin, en troisième étape. Dieu sait pourquoi il fait comme ça. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire là ? Diagnostic, verset 15. C'est intéressant parce qu'il dit « Considérez donc attentivement ». Là, c'est une évaluation même du travail. Le travail, ça fait 2 mois qu'ils travaillent, hein, 2 mois et demi. Donc, on devrait se dire ben, « Ça va, maintenant, ils se sont mis au travail, ils sont réveillés, tout va bien maintenant. Ils n'ont qu'à continuer. Ben, » Dieu parle encore une fois de plus et il dit « Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, on venait à un tas de 20 mesures. » Et il n'y en avait que 10. On venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains. J'ai envie de m'arrêter là parce que c'est la suite. Passons au verset 18. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je m'arrête là, pour en rester au diagnostic. Même chose, ils se sont mis au travail, ils ont obéi, ils ont changé de perspective, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais Dieu, maintenant, veut régler une fois pour toutes quelque chose d'autre. Et il dit, regardez, pour l'instant, même si vous avez travaillé, vous n'avez toujours pas les fruits. Vous êtes toujours déçu, vous avez toujours la moitié. Normalement, l'évangélisation devrait se dire, mais Dieu multiplie. À Jérusalem, la Pentecôte, il multiplie. Et là, c'est division, soustraction ou division. On en a moins hein, que ce qu'on pensait, même ce qu'on espérait, on ne l'a pas. Bon, c'est un diagnostic. Maintenant, vous allez écouter. Vous n'avez toujours pas ce que vous espériez. OK ? Quel est le mal ? Versets 11 à 14. Il commence en parlant en s'appuyant sur les sacrifices de l'Ancien Testament. Bon. Verset 10, le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent : ben non. Et Agé dit : si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ? Les sacrificateurs répondirent : elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit : tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Alors c'est intéressant, cette histoire de loi. Avoir dans son vêtement un aliment consacré, enfin une offrande consacrée, quelque chose qui a été donné à Dieu, de l'avoir en soi, c'est saint, on a avec nous quelque chose de saint. Est-ce que ça va sanctifier tout ce qu'on va faire derrière ? Il dit non. Ce n'est pas parce qu'on porte quelque chose de dévoué à Dieu en soi que tout ce qu'on fait est pur et parfait. Ils disent non, dans la loi, non. Et à l'inverse, avoir touché un cadavre, donc avoir été souillé, est-ce que ce qu'on touche après va être souillé ? Et ils disent, ben oui. C'est-à-dire, en substance, faire quelque chose pour le Seigneur, que le Seigneur bénit, que Dieu nous a demandé, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on fait est sanctifié comme par magie ? Que tout ce qu'on dit, comme vous savez, la bulle papale, toutes nos paroles sont parfaites. Hein. Même nos blagues sont saintes. Ben non. On peut avoir fait quelque chose de bien conduit par le Seigneur, être consacré à des tâches que le Seigneur nous a assignées, être dans l'obéissance et continuer à faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Et à l'inverse, on sert le Seigneur, on est à 80% pour le Seigneur, les 20% restants, bon, il y a des choses pas très nettes dans nos vies. Des choses qu'on regarde, des choses qu'on fait, des pensées qu'on a. On sert le Seigneur, personne n'en sait rien, mais le Seigneur le sait. Et on dit, mais Seigneur, je te sers. Seigneur, tu bénis mon ministère. Seigneur, tu as fait fructifier ce que... Et le Seigneur qui dit, je sonde les cœurs et les pensées, je sais quelles sont tes pensées là. Quand tu marches dans la rue. Je sais le genre d'image que tu regardes. Et c'est pour ça qu'il y a même un proverbe qui dit, est-ce que quelqu'un peut mettre dans son sein un tison ardent sans se brûler ? Ben non. Donc, Dieu dit, vous avez beau avoir fait les deux bonnes premières étapes, ce que vous faites est souillé. Voilà pourquoi je ne peux toujours pas bénir. Voilà pourquoi même vos obéissances ne sont pas pour l'instant arrosées. Vous pouvez planter, vous pouvez arroser, mais je ne fais pas croître. Voilà pourquoi. Problème de sanctification. Quelle est la prescription ? Ben, elle était déjà sous-entendue dans le reproche que le Seigneur fait. Au verset 17, il termine « Malgré cela, malgré qu'ils souffrent de ça, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Vous savez qu'on peut servir le Seigneur, on peut même être béni par le Seigneur et en réalité ne pas être vraiment revenu au Seigneur dans le sens en intimité avec lui, près de lui. On peut faire des choses d'obéissance, on peut faire des choses en partie bénies, mais au fond, Dieu sait, l'épître, enfin la lettre à l'Apocalypse, de l'Apocalypse aux Éphésiens, il dit, mais j'ai quelque chose contre vous, c'est que, comme le frère l'a dit, je pense, vendredi, le premier amour, vous avez abandonné votre premier amour. Dieu ne se contente pas de, après 40 ans de mariage, bon, Dieu veut le premier amour, revenu à lui. On ne peut pas servir le Seigneur si notre cœur n'est pas au Seigneur. Voilà le problème, voilà la prescription, revenir à lui, vouloir avoir avec lui une vie intime de tous les instants. On ne peut pas dire le dimanche c'est le jour béni, la semaine c'est à moi. Ça n'existe pas ça. Vous ne pouvez pas dire à votre femme ou à votre conjoint, mardi c'est le jour consacré à toi, le reste de la semaine je fais un peu ce que je veux. Quoi. Ça n'existe pas ça. Dieu veut une relation avec nous de chaque instant, chaque jour, à chaque heure. Voilà ce que dit le cantique, j'ai besoin de toi. Chaque instant, chaque matin, presque chaque heure, chaque minute, on a besoin de savoir ce qu'il en pense, ce qu'il veut. Est-ce que c'est juste, Seigneur, montre-moi les grandes choses à faire, mais toutes les petites choses, tu me les laisses. Moi, je demande au Seigneur des fois ce que je dois manger, à quelle heure je me lève, enfin, et je ne veux pas un message qui me descend du ciel qui dit 7h45 ou je ne sais pas quoi. Mais dans le cœur, il y a des choses qu'on sait. On sait qu'il y a des jours où on doit se lever beaucoup plus tôt parce qu'on a des choses à faire avec lui, c'est évident. Et des jours où il dit repos. Il n'y a pas de souci, le Seigneur s'occupe du repos. Il s'occupe de notre estomac, il s'occupe de nos habits, il s'occupe de notre douche, il s'occupe de notre maison. Il a dit, cherchez premièrement. Et vous aurez tout ça, vous inquiétez pas. Mais ce tout ça, il faut que ça soit en relation avec lui. Ce n'est pas ça pour toi et ça c'est pour moi. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Donc pour terminer, verset 19, sa conclusion, étonnamment, puisqu'on parlait du temps, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Là, il n'y a pas de délai, c'est dès ce jour. Et je répandrai ma bénédiction. Voilà ce qui manquait. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez travaillé, vous avez apporté du bois, vous avez obéi, mais c'est quand même sans moi. Vous l'avez fait vous. C'est bien d'obéir déjà, mais le faire par moi, c'est ça que je veux. Par ma force, par mon esprit. Et verset 22, j'ébranlerai les cieux et la terre. Il le répète, on l'a lu tout à l'heure, hein, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je veux dire, tout ce qui nous semble stable, évident, Dieu peut tout ébranler s'il a décidé. Mais dans le bon sens du terme, là, en l'occurrence. Pas pour la fin du monde, les nations, la guerre et tout ça. Non, ébranler tout ça pour que ce qui est vraiment important paraisse. Et on termine avec Hébreux 11, verset 12. On va juste lire ces versets parce que on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, cette expression « J'ébranlerai les cieux et la terre ». Hébreux 11, versets 12 à 14. Non, c'est verset 12. Chapitre 12. D'abord, verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bon, on pourrait continuer, mais au verset 26, « Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Rappelons-nous que tout ce qu'on fera en réponse à ce que le Seigneur nous aura montré, il faut le faire, mais que c'est quand le Seigneur lui-même va faire des choses qui nous dépassent tellement pour son royaume inébranlable. C'est ça l'échéance qui compte. Travailler sans continuer, en continuant à ne pas avoir de fruits, en ne faisant que des choses apparemment dans la difficulté et sans résultat. Oui, mais ça, c'est parce qu'on ne se projette pas dans la perspective des choses inébranlables. On a travaillé pour quelque chose à venir, un royaume inébranlable. Le Maître va venir. Que le Seigneur vous bénisse.